France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City Sandinderhausen.
Haliam Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Esse.
C'est ce que l'on craignait déjà aux premières frappes. La guerre lancée par Israël et les États-Unis qui se régionalise, elle tape fort, en tout cas dans les pays du Golfe. Et le Hezbollah libanais, qui n'avait pas fait parler de lui jusqu'alors, est en train d'entraîner, on met un point d'interrogation à cela, le Liban dans cette guerre, après donc une frappe sur Israël en solidarité avec l'Iran et une réponse qui a lieu en ce moment même et qui est extrêmement forte. Nous en parlerons avec notre invité, mais nous avons aussi un œil appuyé sur la doctrine nucléaire de la France énoncée par Emmanuel Macron cet après-midi. Parce que même si on est loin, nous sommes en temps de guerre et les hasards de calendrier parfois sont intéressants. Un œil également sur les États-Unis encore une fois et les déclarations contradictoires de Donald Trump. Le candidat anti-interventionnisme est-il devenu un néoconservateur à l'ancienne? Ce sera la question de Frédéric Seyss qui remet le monde à l'endroit. Sous les radars, Boris Loumani a été cherché derrière les plis du conflit et vous verrez ce piratage à la télévision iranienne hier où le discours de Trump et celui de Netanyahou ont été brièvement diffusés. Et puis juste avant 19h, parce qu'on a aussi besoin de souffler, la BO du monde avec Cyril Sauvageau nous éloigne de la guerre sans aller trop loin non plus, puisqu'on parle d'un album caritatif pour les enfants victimes de guerre, au casting, vous le verrez, très impressionnant. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure, allons-y. Je le disais, deux temps, deux invités ce soir avec deux thématiques aussi, mais qui finissent par se rejoindre. Il y a Ziad Madjek qui est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politiste franco-libanais, professeur à l'Université américaine de Paris. Le Proche-Orient, miroir du monde, c'est votre dernier livre aux éditions La Découverte. Et puis Étienne Marcuzella également, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste de la dissuasion et de la défense antimissile. Je voudrais juste un mot de votre part l'un l'autre, puisque c'est la première fois qu'on entend Donald Trump réellement dans une forme de discours qui d'ailleurs n'en était pas un. Est-ce qu'il nous a appris quelque chose sur ses buts de guerre, Ziad Madjek? Pas tellement. Hein.
Non, pas vraiment. En fait, il se répète, sauf qu'il a évoqué cette fois la durée. Il a parlé de plus de 4 à 5 semaines comme éventualité. Et il a même parlé d'une présence sur le sol si nécessaire, ce qui est différent de ce qui a été annoncé plus tôt. Mais par rapport aux objectifs, il est toujours dans le flou. Est-ce que c'est le regime change? Est-ce que c'est le programme nucléaire, le programme balistique? Avec en plus des formules à la Trump qui ne veulent rien dire politiquement.
Il dit aussi, Étienne Marcus, que l'Iran présentait une réelle menace sur le peuple américain, balistiquement parlant, mais aussi nucléairement parlant. Est-ce qu'il est en train de mentir au peuple américain?
Oui, effectivement, l'Iran a un programme balistique, a eu un programme nucléaire, mais la décision n'a jamais été prise d'aller au-delà du seuil de fabrication. C'est donc, effectivement, ça a été confirmé même par la CIA, et d'ailleurs, Trump avait lui-même annoncé avoir oblitéré le programme nucléaire iranien il y a moins d'un an, et maintenant il nous dit qu'ils étaient à presque quelques jours d'obtenir la bombe, ce qui est un peu contradictoire.
Le flou dans ce contexte, à votre avis, est-ce qu'il sert ou dessert l'une des parties ou pas? Le flou de Trump, ou est-ce que ça change rien finalement? Ni pour Israël, ni pour le Liban? Est-ce que l'un de vous a un avis là-dessus? Pardon, je ne vais pas vous piéger.
On a l'impression que c'est Netanyahou qui mène la politique, qui entraîne les États-Unis dans la guerre, comme ce fut le cas en juin 2025. C'était au milieu des négociations la première fois, c'était au milieu des négociations cette fois, et même les impressions des négociateurs étaient plutôt positives, dans le sens où les Iraniens étaient très flexibles sur le nucléaire, pour tenter peut-être plus tard de défendre leur balistique, et soudain, la guerre éclate avec une telle ampleur. Donc, Netanyahou a des objectifs. Il est dans une reconfiguration de la région où il veut une suprématie israélienne totale, une hégémonie militaire. Tandis que Trump, il est toujours dans des contradictions et dans une certaine folie de grandeur. Et il répète souvent que les armes américaines sont les meilleures, que nous sommes les plus forts. Un peu un discours décousu qui politiquement ne veut pas dire grand-chose.
Un mot, Étienne Marcus?
Alors, effectivement, l'Iran peut, en fait, si effectivement là, les États-Unis et Israël arrivent à neutraliser la majeure partie de l'arsenal balistique iranien, l'Iran ne sera plus une réelle menace pour Israël. Par contre, l'Iran restera gardera une capacité de nuisance très importante dans la région, quoi qu'il arrive. On l'a vu avec les Houthis, hein, qui ont été frappés pendant des années par les Saoudiens et les Émiratis. Et au final, ils ont gardé pendant des années des capacités à tirer des missiles contre Israël, contre l'Arabie Saoudite, contre les Émirats.
Mais là, dans une guerre comme ça, est-ce qu'ils ne risquent pas de l'épuiser, leur stock, quand même, leur stock balistique ?
Ça coûte toujours beaucoup moins cher de faire un missile balistique. Ils avaient des stocks de plusieurs centaines, voire milliers de missiles balistiques courte portée, et surtout des milliers de drones Shahed qui peuvent être tirés depuis une petite catapulte sur un pick-up, donc qui peut se cacher dans n'importe quel garage iranien. Donc c'est là encore cette capacité de nuisance qui, certes, n'est pas terrifiante, mais peut par exemple perturber la navigation maritime dans le Golfe.
Et sera pérenne, effectivement, je vous entends bien, si le régime ne change pas intégralement. Exactement. Effectivement, pour l'instant, on n'y est pas. Ce qu'on a surtout vu ce matin, Ziad Majeb, c'est que la régionalisation tant redoutée, alors je ne sais pas si elle est là, stricto sensu, aujourd'hui, au moment où on se parle, mais au moment où on se parle, on sait que Beyrouth Sud est bombardée de manière violente également. L'attaque, évidemment, une réponse au Hezbollah ce matin. Le Hezbollah qui avait dit dans son discours belliqueux que la mort du guide était une ligne rouge. Et en même temps, personne ne pensait vraiment qu'ils avaient intérêt à rentrer dans cette guerre. Ils le font. Est-ce que c'est une attaque de principe ? Est-ce que c'est une entrée dans une nouvelle guerre ? Est-ce que c'est même une opération suicide de la part du Hezbollah ? Oui.
Alors, vous avez tout à fait raison à évoquer ces trois hypothèses. Au Liban, aujourd'hui, les gens se demandent qu'est-ce qui a pris le parti pour prendre cette décision. Il faut juste rappeler que selon les Nations Unies, selon la FINUL, les casques bleus qui sont présents sur le sol dans le sud Liban, depuis le cessez-le-feu novembre 2024, Israël l'a violé 10 000 fois. Donc, les bombardements israéliens ne sont jamais arrêtés au Liban. Il y a eu plus de 450 morts libanais et libanaises durant ces frappes et des milliers de déplacés internes, en plus des destructions. En même temps, Hezbollah n'avait jamais riposté. À la fois, il voulait éviter une escalade. Le parti a été fragilisé, mais le pays est dans un état extrêmement vulnérable, économiquement, politiquement. Et donc là, c'était une surprise, je peux même dire que c'était suicidaire de la part du parti de prendre cette initiative, surtout que sur la forme, si vous voulez, ils ont tenté d'envoyer 5 ou 6 missiles, rien militairement parlant qui peut avoir un impact, et ils ont offert aux Israéliens qui, je le répète, avait frappé le Liban plus de 10 000 fois en un an et demi.
Offert l'occasion
mais ils ont offert un
tapis de bombe qu'on est en train de voir aujourd'hui.
Exactement, et pour toucher la banlieue sud et pour poursuivre leur politique de terre brûlée avec une occupation dans le sud Liban et peut-être aussi une opération d'élargissement de la zone occupée déjà par les Israéliens.
Ce qui est encore plus incompréhensible, c'est que l'assise politique du Hezbollah s'est réduite en même temps que sa réduction tout court, si j'ose le dire comme ça. On a bien vu aujourd'hui qu'il y avait même des appels pour leur démilitarisation. On sait bien ce que ça donnera, mais symboliquement, ça dit quand même quelque chose. Donc, est-ce que ça veut dire que le Hezbollah aujourd'hui s'assoit sur cette assise politique ? Est-ce que c'est ça que ça veut dire ? Ou est-ce qu'il imagine que le tapis de bombe fera que, à nouveau, certains de ses partisans se mettront derrière lui ?
Non, je pense qu'il considère qu'il a toujours une certaine légitimité populaire au sein de la communauté chiite, que son argument comme quoi Israël, de toute façon, n'a jamais respecté le cessez-le-feu et continué à bombarder le Liban, allait lui permettre une justification, allait préserver sa base soudée autour de lui. Mais on a vu pour la première fois au sein du Conseil des ministres ce matin, le bloc chiite qui était toujours dans un seul vote, se diviser, se fracturer. Il y a une partie des ministres qui ont soutenu la décision du gouvernement libanais de monopoliser les armes et de contrôler la décision de paix et de guerre. Et donc, il peut y avoir maintenant beaucoup de pression interne de la part des institutions sécuritaires libanaises sur le Hezbollah pour arrêter toute forme d'activité guerrière. Et en même temps, la base sociale du parti qui a été frappée de nouveau dans la banlieue sud, dans la Beka, au sud Liban, est aujourd'hui sur les routes. Il y a des centaines de milliers de personnes qui ont été déplacées montée de force par les bombardements israéliens. Donc, il est dans une situation très délicate et je vois difficilement comment il va pouvoir la gérer.
C'est très cynique. Est-ce que le pouvoir libanais se dit aussi que c'est aussi une manière de planter le dernier clou dans le cercueil du Hezbollah, au fond?
Oui et non, parce qu'il peut y avoir une opportunité pour aujourd'hui imposer un monopole au niveau des armes, au niveau de l'usage de la violence par l'État libanais. Mais en même temps, si Hezbollah refuse, je ne pense pas que l'armée ni les institutions sont aussi dans une logique de guerre civile ou d'affrontement avec le parti. D'autant plus que le gouvernement avait annoncé sa décision donc, de rendre illégale la branche armée de Hezbollah. Mm-hmm. Mais en même temps, il a demandé et appelé la communauté internationale à faire pression sur Israël pour arrêter ses agressions et ses crimes au Liban. Donc si les Israéliens maintiennent leur politique guerrière et continuent à frapper, ça va être très délicat aussi de gérer la situation avec Hezbollah et avec ses combattants.
Deux dernières questions quand même. D'abord, qu'est-ce qu'il en reste réellement du Hezbollah depuis la fameuse opération des pagers donc de 2024, la mort d'Hassan Nasrallah? C'est quoi aujourd'hui le Hezbollah au Liban en fait?
Il reste un parti politique libanais, qui a l'un des plus grands blocs parlementaires, qui a un bloc gouvernemental, qui gère une bonne centaine de municipalités à travers le pays. Donc dans un Liban qui a un système de représentation confessionnelle, Hezbollah militaire a été affaibli, Hezbollah politique a été affaibli également, mais il garde une présence et il va garder probablement une présence. Sauf que il doit aussi accepter le fait que sa relation organique avec l'Iran doit changer, et cela va être une réalité dans les prochains mois.
Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est que avec la décapitation des têtes iraniennes et le jeu de domino qui va derrière, ce qui est aussi décapité au fond, c'est la doctrine du guide. Donc ça veut dire que c'est aussi la doctrine d'un schisme politique extrêmement fort. C'est ce qui a fasciné l'Iran, la région, les proxys. Est-ce que ça veut dire que le Hezbollah se dit qu'il peut survivre sur ces cendres-là? Est-ce que ça veut dire qu'il espère qu'un régime finalement similaire se met à place en Iran, donc il reprend exactement sa place, pardon, ou est-ce que ça veut dire qu'il veut être le dernier bastion, au fond, de ce schisme-là?
Alors, vous savez, Hezbollah est le produit, si j'ose dire, de quatre facteurs. Alors, il y a le facteur interne libanais, qui est celui du jeu confessionnel, du fait qu'une partie de la communauté chiite s'est sentie souvent marginalisée économiquement, donc ça c'est un. Deux, c'est le facteur du traumatisme qu'ont subi les gens du sud Liban, envahi à plusieurs reprises par Israël et bombardé pendant de longues années. Trois, l'exportation de la révolution iranienne, d'où l'idéologie du guide suprême Khomeini dans le temps, puis Khamenei, exporter le modèle iranien. Et quatre, tout son réseau, qui devient un réseau de services, de recrutement, de népotisme dans le système confessionnel libanais. Donc il y a un Hezbollah qui va être affaibli, celui de l'exportation de la révolution. Il y a un Hezbollah militaire qui est affaibli déjà. Il va préserver une certaine présence politique au sein des institutions. Mais en même temps, la violence israélienne qui dure et qui va se poursuivre dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, et qui n'a jamais arrêté depuis le cessez-le-feu, crée aussi un contexte libanais où la question devient très délicate. Et encore une fois, peut-être il faut rappeler dans un monde où il y a un Donald Trump, où il y a tellement d'injustices, que le premier ministre israélien est sous mandat d'arrêt pour crime contre l'humanité. Et c'est lui aujourd'hui qui tente de changer le Proche-Orient et de prétendre créer un Proche-Orient de paix et de stabilité. Donc cette formule-là ne va jamais mener ni à une paix ni à une stabilité. Et dans l'absence de la paix et de la stabilité, des phénomènes comme Hezbollah ou autres pourront toujours émerger.
Puisqu'on est en train de parler de contexte, Ziad Majebjou, merci beaucoup. C'est le contexte qui nous intéresse aussi. Étienne Marcus, je rappelle, chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous êtes spécialiste de la dissuasion et de la défense antimissile. L'autre gros morceau de cette journée, c'est le fameux discours sur la dissuasion d'Emmanuel Macron. Et si on a eu envie de matcher ces deux événements, si j'ose dire, c'est que est-ce que ça a un sens de dévoiler une dissuasion nucléaire, justement au milieu d'un conflit? Est-ce que ça a d'autant plus de sens d'avoir maintenu ce discours, à votre avis, au milieu d'un conflit?
Alors, tout à fait. On peut prendre l'exemple de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. À cette occasion, les États-Unis, par exemple, avaient décidé de ne pas effectuer un tir de missile balistique à capacité nucléaire pour ne pas envenimer la situation. La France avait, elle, décidé à l'époque de, justement, elle avait prévu des exercices, des tirs, elle avait décidé de ne rien changer parce qu'il ne faut pas montrer de fébrilité. On a un planning, ce discours était prévu depuis longtemps, bon, il a été reporté, il ne fallait pas montrer qu'on surréagit, on a des doutes, etc. Là, c'était, on a un discours de prévu, notre dissuasion est solide, notre outil de dissuasif est solide, on n'a pas à s'inquiéter de, et à surréagir à chaque événement géopolitique, a fortiori, il s'en passe... des dizaines
comme vous dites,
par mois ces temps-ci. Donc,
à intervalles extrêmement réguliers, voilà. Avec quand même quelques choses qui sont au pluriel, qui sont majeures. Vous allez nous dire si on parle même de rupture majeure, quand Emmanuel Macron parle de reprendre le contrôle du destin européen, face, a-t-il dit d'ailleurs, à de nouveaux conflits, face à des conflits surtout qui peuvent franchir, a-t-il dit, le cap nucléaire. Donc, garder la main sur le bouton. Associer les Européens à la dissuasion, est-ce que ça s'appelle une rupture, ça, ou pas ?
Oui, là, on a vraiment, c'est probablement l'évolution la plus majeure depuis une trentaine d'années, voire plus. Là, c'est vraiment... Alors, il a introduit, par exemple, un nouveau concept, donc la dissuasion avancée ou en profondeur. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau, qu'il va falloir éclaircir. Alors, c'est notamment cette volonté de concrétiser un peu la dimension européenne qui avait été annoncée, alors qui a toujours existé dans la doctrine française, mais qui avait été réitérée en 2020. Et là, en fait, le problème, c'est que ce n'était pas vraiment compris par nos alliés, ce qu'était cette dimension européenne. Et là, en fait, il l'explicite un peu plus en disant que la dissuasion française ne protège pas les frontières physiques du pays, mais doit s'inscrire dans une profondeur stratégique apportée par nos alliés.
Nos alliés qui ne sont pas les alliés européens 27, mais il y en a 8 pour l'instant qui décident de rentrer, notamment l'Allemagne. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas une rupture majeure quand même, quand l'Allemagne est dans ce genre de plan-là, Étienne Marcuse ?
Tout à fait, l'Allemagne, mais aussi d'autres pays, par exemple la Belgique et les Pays-Bas. Hein, on peut noter que ces trois pays font partie donc, des pays qui hébergent des armes nucléaires américaines. Bientôt, le Royaume-Uni en refera partie également. Donc c'est là où effectivement, il y a une rupture de ces pays qui sont pourtant, qui symbolisent la dissuasion élargie américaine, sont tout de même intéressés par la dissuasion française. Donc ça montre que vraiment, il y a un besoin, une recherche de protection que peut la France et le seul pays en Europe à pouvoir apporter cette protection.
Et peut-être de plus en plus, effectivement, puisqu'on sait le désengagement ou pas des États-Unis. Quand on dit « on s'engage si nos pays sont attaqués », comment ça se lit, ça ? On s'engage comment, en fait ? Est-ce qu'on sait déjà lire ça ? Est-ce que ça va mériter des notes de bas de page, ce discours d'Emmanuel Macron ?
Ça ne méritera pas d'éclaircissement plus poussé, parce que c'est la fameuse ambiguïté stratégique. On n'annoncera pas dans quelle mesure nous protégerons nos alliés, avec quels moyens. Toutefois, il a bien fait mention du fait que les pays qui contribueront donc à ce qu'on appelle du soutien conventionnel aux opérations nucléaires seront de facto, s'inscriront dans la dissuasion française. Alors, je ne sais plus les termes exacts, mais c'est un peu l'idée. Donc, on voit clairement qu'il y a quand même une volonté d'associer la participation de ces pays à la dissuasion française. Donc, c'est vraiment un signal très fort, parce que jusqu'à présent, c'était vraiment, la France était... prioriser vraiment son indépendance. Elle maintient son indépendance et son autonomie, mais en faisant participer également ses alliés.
L'indépendance, effectivement, c'est des mots qu'a prononcé à nombreuses reprises Emmanuel Macron. Il y a autre chose, plus de têtes nucléaires, pas de communication sur les têtes, mais plus de têtes, qu'est-ce que ça envoie comme message, ça ? Encore une fois, dans ce contexte, d'ailleurs.
Alors, c'est avant tout, la France était jusqu'à présent l'un des seuls, si ce n'est le seul État doté, à ne pas avoir augmenté son nombre de têtes, alors que le contexte géopolitique actuel est quand même très volatile, avec la fin de plusieurs traités de contrôle des armements. Il a cité notamment le New Start, qui s'est terminé le 5 février, mais également une densification des défenses antimissiles adverses. Donc, c'est vraiment, et aussi la nécessité de pouvoir dissuader une alliance. Il a mentionné la Russie qui a signé un traité d'alliance avec la Corée du Nord. Donc cette nécessité de pouvoir dissuader non pas un unique pays, mais deux centres de décision politique. Donc c'est dans ce cadre-là que s'inscrit cette nécessité de devoir renforcer, avec un nombre indéterminé, le nombre de têtes nucléaires présentes dans l'arsenal français.
Comment ça se danse avec les Britanniques, qui sont là évidemment, mais qui sont aussi les seuls au milieu de nos pays européens à avoir une arme nucléaire eux aussi. Est-ce que ça se danse ? Est-ce que c'est une valse à deux temps, ça, ou pas ?
C'est, alors, ça, c'est la déclaration de Northwood de juillet 2025 qui a pour la première fois mentionné la possibilité de coordination aussi bien technologique, qu'opérationnel que politique, des deux dissuasions de nos deux pays. Ça laisse là encore un flou sur l'étendue de cette coordination, mais par exemple la possibilité de coordonner soit pour le signalement, par exemple les mouvements de nos forces stratégiques, mais aussi éventuellement dans les frappes, donc la possibilité de frapper plus de cibles et donc de causer des dommages inacceptable, encore plus important pour l'adversaire.
J'ai une dernière question pour vous. Il y a une phrase qui m'a marquée dans ce qu'a dit Emmanuel Macron cet après-midi, c'est « Le champ des règles est un champ de ruines ». Je voudrais savoir ce qu'on lit là-dedans, si on lit que le droit international, les instances de régulation, tout ça, c'est mort, et que ça change aussi la dissuasion d'un pays. Est-ce que c'est comme ça que je dois le lire ?
Je pense pas. Je pense qu'effectivement, c'est un champ de ruines, mais sur lequel on peut reconstruire. Il a bien mentionné le fait que...
C'est un garçon optimiste, bravo.
Il faut, je pense, c'est important. J'ai une collègue, Emmanuel Maître, qui est très justement sur le contrôle des armements. Et il a justement réitéré cet engagement de la France à œuvrer à un monde sans armes nucléaires. Mais il faut aussi vivre avec son temps. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Mais l'ambition ultime de la France est bien se diriger vers un monde sans armes nucléaires.
Vivre avec son temps, c'est aussi vivre avec ce que nous parlons là depuis trois jours intensément, vivre avec la guerre. Merci Étienne Marcus, merci d'être venu chez nous. Merci à vous aussi Ziad Majed, vous êtes les bienvenus pour revenir parce que j'imagine qu'on aura largement le temps de reparler de tout ça tous ensemble dans Un jour dans le monde. La suite nous laisse dans la région, mais côté américain, c'est vous Frédéric Saïs qui remettez le monde à l'endroit.
Et Donald Trump promettait d'en finir avec les interventions à l'étranger. Comment expliquer ce changement de
cycle ? Sous les radars du conflit ce soir avec vous Boris Loumagne.
Et on parlera du président ukrainien inquiet pour son système de défense antiaérienne, dont une partie est actuellement déployée par les Américains au Moyen-Orient.
Et la BO du monde, ça va nous faire respirer grâce à vous, Cyril Sauvageau.
Un album caritatif au casting 5 étoiles.
Allez, juste après ça. Wetleg, Davina McCall, le duo de l'île de Wight, Wetleg, qui sont des habitués de la playlist de France Inter. Le monde à l'endroit, c'est Frédéric Saïs.
Fabienne Saintès. le 18-20.
Et le revoilà, Frédéric, il promettait d'en finir avec les guerres. Donald Trump a-t-il renié sa parole ?
Ceci n'est pas une pipe, il y avait du Magritte dans l'air tout à l'heure au Pentagone. Ceci n'est pas une guerre pour changer de régime en Iran, a juré le ministre américain Pete Hegseth, propos quelque peu surréaliste sous l'œil étonné des dizaines de journalistes. Alors si l'administration Trump déploie une telle énergie pour repeindre ce conflit massif en escarmouche limitée, c'est pour ne pas contredire les promesses présidentielles. Car depuis des années, Donald Trump se dit opposé à ces guerres sans fin au Moyen-Orient, ces opérations de changement de régime, une position qui a d'ailleurs largement contribué à son essor politique. 2016, Donald Trump se lance dans la course, il est le petit nouveau à l'époque de la primaire républicaine, et sur scène, il prend le dessus sur ses rivaux, notamment sur le gouverneur Jeb Bush, le frère de George Bush. Trump lui reproche la guerre en Irak avec ces mots « Ce conflit nous a coûté 2000 milliards de dollars et des milliers de vies, nous n'aurions jamais dû intervenir, nous avons déstabilisé le Moyen-Orient ». Alors vous me direz « Oui, mais c'était il y a 10 ans, tout le monde a le droit de changer, c'est vrai ». Mais beaucoup plus récemment, dans sa campagne de réélection en 2024, Donald Trump promettait ceci « Avec moi, vous n'aurez pas de guerre » sous les acclamations de ses partisans. Contraste pour le moins saisissant avec les colonnes de fumée et les explosions qui asphyxient en ce moment même le Moyen-Orient.
Alors comment on l'explique ce revirement de Donald Trump, anti-guerre, devenu chef de guerre ?
Alors éliminons, Fabienne, déjà une première hypothèse, celle de la versatilité. C'est un peu un lieu commun de dire Donald Trump est imprévisible, etc. Oui, certes, il peut dire noir un jour, blanc le lendemain, certes, mais comme toutes les explications psychologisantes de la politique, cette hypothèse a évidemment de grosses limites, ne serait-ce que parce que ce basculement, ça n'a pas été une volte-face du jour au lendemain, mais plutôt un glissement progressif. Premier mandat, janvier 2020, Trump autorise un bombardement limité, mais à haut risque. Il tue le général iranien Soleimani. Soleimani, c'est l'une des pièces maîtresses du régime. Beaucoup d'experts prédisent d'ailleurs un embrasement régional, mais à l'époque, la riposte iranienne est plutôt limitée. Alors, les opérations américaines vont crescendo au Yémen, en Syrie, jusqu'au bombardement des bunkers nucléaires iraniens en juin dernier. Et cet après-midi, dans une interview à la presse américaine, Donald Trump n'a même pas exclu d'envoyer des troupes au sol en Iran.
Ça veut dire qu'il est donc entraîné par sa propre audace ?
Oui, et par l'absence de réaction. Ses adversaires comme la Chine et la Russie se contentent de réprobation verbale. Ses alliés comme les Européens regardent leurs chaussures. Quant à la base MAGA, les partisans de Donald Trump, jusqu'ici, ils se sont montrés divisés sur ses interventions à l'étranger. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'un dirigeant américain tourne kazakh. En 1916, le président Wilson est réélu sur un programme isolationniste, America First. Ça nous rappelle, tiens, quelque chose. Un an plus tard, il entre dans la Première Guerre mondiale pour soutenir la France et l'Angleterre. Mais le changement de Donald Trump est presque plus impressionnant encore, selon les relevés de la presse américaine. Il a autorisé davantage de bombardements depuis son retour au pouvoir il y a 14 mois, davantage que pendant l'ensemble de son premier mandat. Voilà pour le tableau, et ce n'est pas du Magritte.
Frédéric Saïs, merci beaucoup. Sous les radars du Moyen-Orient ce soir, et c'est Boris Loumagne. Et on commence, Boris, avec la télévision d'État iranienne qui a été piratée hier. C'est Donald Trump qu'on entend là, qui est apparu à l'écran. Et ce qu'on entend, c'est donc ce président qui a appelé les Iraniens à se soulever et à prendre leur destin en main.
Oui, c'est le moment de passer à l'action. Ne ratez pas une telle opportunité. Voilà ce qu'a pu dire Donald Trump à des millions d'Iraniens sur la principale chaîne du pays. Le discours était en anglais, on l'a entendu, mais sous-titré en persan. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, c'est lui aussi invité dans les foyers iraniens grâce à ce piratage de la télé d'État. Et puis, pendant quelques minutes, des images d'archives du mouvement Femmes, Vie, Liberté ont également remplacé les habituels programmes de propagande de la chaîne iranienne. La guerre menée par les États-Unis et Israël est donc polymorphe, une guerre avec des moyens militaires classiques, mais aussi une guerre psychologique pour retourner la population contre le régime des Mollahs. Et c'est aussi dans cette optique d'ailleurs que les Américains ont également piraté ce week-end une application de prière utilisée par des millions d'Iraniens, et là encore pour diffuser des messages appelant le peuple à se soulever.
Et ça, c'est le président ukrainien, pardon, qui propose son aide à Israël et aux pays du Golfe afin de lutter contre les attaques iraniennes.
Oui, Volodymyr Zelensky souhaite souhaite partager son savoir-faire en matière de lutte contre les drones iraniens, les fameux Shahed, que l'Ukraine connaît bien, trop bien même, puisque Kiev en a abattu plusieurs dizaines de milliers depuis le début de la guerre. Le président Zelensky veut faire preuve de bonne volonté. Il veut surtout que la communauté internationale ne l'oublie pas. Zelensky a d'ailleurs exprimé ses craintes peu après le déclenchement de l'attaque israélo-américaine en Iran. Première inquiétude, les nouveaux pourparlers entre Kiev et Moscou, ils devaient se tenir dans les prochains jours aux Émirats Arabes Unis, mais au vu de la situation sécuritaire sur place, il y a fort à parier qu'ils soient tout simplement annulés. Et puis Zelensky craint aussi une pénurie de systèmes de défense antiaérienne. Les livraisons américaines se font rares parce que ce matériel est actuellement envoyé en priorité au Moyen-Orient. One of the most successful private jet
aviation companies globally, serving high spending. La guerre n'est pas une catastrophe pour tout le monde. Les compagnies aériennes de jets privés se frottent les mains actuellement dans les pays du Golfe.
Oui, alors que les vols réguliers sont presque tous à l'arrêt, les riches touristes étrangers tentent par tous les moyens de quitter leur lieu de villégiature, Dubaï, Abu Dhabi ou encore Doha. Les rares jets privés qui décollent encore sont pris d'assaut et les prix des places explosent. Ils sont multipliés par 3 ou par 4. Par exemple, comptez 85 000 $ pour un vol entre Oman et la Turquie et jusqu'à 300 000 $ pour un vol en direction de l'Europe. Quant aux touristes, ceux qui n'ont pas le budget et ils sont nombreux, il va falloir être patient ou alors faire beaucoup de routes pour rejoindre l'un des rares aéroports encore fonctionnels de la région, celui de Riyad en Arabie Saoudite.
Merci beaucoup Boris Loumane, vous pourrez revenir demain Boris, avant de replonger dans le Moyen-Orient, dans l'Iran avec le journal de 19h et puis bien sûr le téléphone sonne juste après, on a besoin d'un moment et c'est la BO du Monde avec Cyril Sauvage.
France Inter, le 18-20.
La BO du Monde, Cyril, qui est à Londres ce soir, finalement pas si éloigné d'ailleurs de nos préoccupations du moment, avec la sortie très attendue d'un album caritatif au profit des enfants victimes de guerre. La cause est noble et le casting impressionnant.
Le meilleur de la scène rock britannique du moment, réuni pour la bonne cause. On aurait difficilement pu rêver mieux que cette compilation Help To. L'album en entier sera disponible vendredi, mais plusieurs titres circulent déjà en avant-première, comme cet inédit des Arctic Monkeys de retour après 3 ans d'absence. Aux manettes de ce projet caritatif, le producteur des Arctic Monkeys, James Ford, un personnage incontournable de la scène actuelle outre-Manche. On lui doit notamment la production des derniers Fontaine D.C., Depeche Mode, Pulp, Bess Gibbons, la chanteuse de Portishead. Tous ces artistes, on les retrouve au générique de l'album Help To, avec des inédits et des collaborations exclusives. Ici, c'est Damon Albarn qui partage le micro avec le rappeur Kay Tempest et Grian Chatten de Fontaine D.C. Here on earth, the sun in the sky, between my teeth, looking down, shaking some hair. Order the mind. Well, I remember the dealers keeping coins in the speakers, choked up on the sheet of having hair like Jesus. Tous les profits récoltés iront à l'organisation War Child International qui œuvre pour venir en aide aux enfants victimes de la guerre. L'ONG britannique intervient notamment en Ukraine, en Afghanistan, au Yémen, au Soudan ou encore en République démocratique du Congo. Well, I remember the dealers keeping coins in the speakers, choked up on the chic of having hair. Et cette ONG, Cyril, avait bénéficié d'un joli coup de projecteur il y a 30 ans avec le premier volet de cette compilation. Help, volume 1, c'était en 1996. Le concept à l'époque est pour le moins original. Un album enregistré en une seule journée dans les studios Abbey Road de Londres, sorti immédiatement en magasin dans la même semaine. Pas de nom d'artiste, pas de titre de chanson sur la pochette. Il faut deviner à l'écoute ce qu'on est en train d'entendre. Ici, par exemple, c'est Oasis avec en invité l'acteur Johnny Depp à la guitare. Au générique et la fine fleur de la scène Britpop, Oasis, Blur et tous les autres. On y entend aussi l'Irlandaise Sinéad O'Connor et même Paul McCartney en guest star. Quant à Radiohead, ils livrent pour l'occasion un inédit qui deviendra bientôt un classique de leur répertoire, Lucky. Cette année 96, l'album Help cartonne outre-Manche et va permettre d'engranger la bagatelle d'1 200 000 livres sterling, une bénédiction pour l'ONG War Child. 30 ans plus tard, son activité est plus essentielle que jamais. Le nombre d'enfants victimes des guerres a fortement augmenté depuis. Il serait 520 millions dans le monde, soit un enfant sur cinq. Une bonne raison pour mobiliser tout ce que le pays compte de jeunes groupes talentueux, même si leur musique habituellement n'est pas du tout politisée. C'est le cas des londoniennes de Last Dinner Party.
Merci beaucoup Cyril Sauvageau, merci de nous avoir sorti un peu de nos préoccupations guerrières dans le 18-20. Vous reviendrez la semaine prochaine.